Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Et ces marchés sont tout simplement fantastiques. Il y a 24 heures, nous étions encore en pleine euphorie. Palantir venait de publier des chiffres à la limite du hors du commun. Les signaux d'alerte clignotaient dans tous les sens, mais tout le monde s'en foutait comme de son premier stop-loss. Si vous aviez l'outrecuidance de vous montrer méfiant sur l'avenir des marchés, vous aviez toutes les chances de vous faire insulter. Et dès que le marché reculait de 0,2%, tout le monde hurlait au buy the dip dans tous les sens. Et puis, il a suffi d'un tweet et de deux commentaires de chez Goldman et Morgan pour que tout d'un coup le vent tourne et que le discours se transforme en « et si c'était trop cher ?». Depuis 7 mois, les marchés montaient comme si la gravité n'existait plus, et là, d'un coup, le doute s'installe. Et si on était allé un peu trop loin? Hier, les marchés ont commencé à se poser des questions, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça n'est pas encore une correction, ni un sell-off, et encore moins un crash boursier. Mais disons que le ton n'est plus le même, et l'expression d'un sentiment bearish beaucoup plus clair se dessine dans les médias financiers. Et pourtant, Trump n'a pas tweeté, il ne s'en est pas pris à Poutine ou à Xi Jinping, et il n'a pas non plus annoncé de nouvelles taxes douanières contre le Canada, le Mexique et la Suisse. Pourtant, les taux américains se sont un peu calmés, signe que certains sont en train de se mettre en position d'atterrissage d'urgence, et sur les écrans de trading, c'était le carnage sur tout ce qui portait l'étiquette IA. Palantir s'est fait dégommer de 8%, Nvidia a perdu 4%, et même les valeurs les plus solides du moment, les Microsoft, Meta, Alphabet ou Amazon, étaient en baisse. Alors, pourquoi ce bain de sang aussi soudain qu'inattendu dans une ambiance de publication trimestrielle plutôt bonne et parfois excellente? Eh bien, tout simplement parce qu'un trader mythique est ressorti de son terrier. Michael Burry, le type qui avait flairé la crise des subprimes en 2008, a pris des positions short sur ces mêmes titres. Et il l'a annoncé, comme à son habitude. Résultat, petite panique du mardi matin. Et pourtant, et si on creuse dans son track record, Michael Burry n'a pas toujours eu raison depuis le Big Short qui a fait sa légende. Mais le fait qu'actuellement le marché soit cher et pricé à la perfection, comme le disait un analyste hier soir, le fait qu'il suffit d'un rien pour que les vieilles angoisses de la surévaluation nous reviennent en pleine face. Et soudainement, tout le monde est en train de changer de discours. Les ultra-bullish se font plus discrets et les discours de fin du monde reprennent le dessus de façon brutale. Un peu comme si les textes étaient écrits depuis longtemps et que l'on attendait juste le bon moment pour tout vendre en hurlant « On vous l'avait dit, on vous l'avait dit !» Et puis alors, comme si l'intervention de Michael Burry ne suffisait pas, il a fallu que deux grands ponts de Wall Street se lâchent plus ou moins en même temps dans les médias. Ils sont réalistes, ne paniquent pas, mais ils sont tendus. Ils sentent que le marché chauffe trop, que c'est trop cher et soudainement tout le monde est d'accord avec eux. David Solomon de chez Goldman Sachs prédit une baisse de 10 à 20% des actions dans les 12 prochains mois, et c'est pas la première fois qu'il le dit. Et son presque homologue de chez Morgan Stanley, Ted Peake, trouve qu'une correction de 10 à 15% serait saine pour les marchés. En gros, on pourrait se faire momentanément défenestrer, mais c'est pour notre bien, pour notre santé et celle du marché. Et puis aussi pour créer de vraies opportunités d'achat et pas des buy the dip à 2 balles après une baisse de 0,32% sur Nvidia. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans ce métier pour comprendre que tout est cher et que tout est haut et que depuis quelque temps, ça devenait trop facile de faire du fric. Il suffisait d'acheter et d'attendre 3 jours pour revendre en argumentant sur l'IA ou sur le fait que Powell allait baisser les taux. Mais avec un shutdown du gouvernement américain qui entre dans son 35e jour et qui bat à nouveau un nouveau record de longévité, l'absence de données économiques fiables, pour autant que les données économiques eurent été fiables un jour, et ensuite vous rajoutez encore Powell qui continue à jouer l'indécision sur les taux, l'ambiance devient carrément électrique. Et les attentes des profits sont délirantes, plus 11,6% pour 2025, plus 14,1% en 2026. On croirait lire le pitch d'une start-up qui veut lever des fonds. Sauf que là, on parle de méga-caps qui valent plus de 2000 milliards. Et du coup, quand les gros banquiers qui tiennent le marché, les hedge fund managers mythiques commencent à lâcher des phrases du genre « ça serait bien que ça baisse un peu », quand ceux qui habituellement te vendent du rêve viennent t'expliquer qu'il faut redescendre sur Terre, c'est rarement bon signe. Les marchés n'ont donc pas aimé. Le Nasdaq s'est pris la plus grosse tôle de ces 30 derniers jours. Le Japon était en plongée de 4% pour fêter ça ce matin, avant de se reprendre un peu. Et les futurs sont, pour une fois, toujours dans le rouge, comme pour dire « cette fois, ça sera pas aussi simple. » Les marchés sont donc en plein doute ce matin et comme je le disais plus tôt dans cette chronique, le ton bon enfant et rassurant est en train de changer. Du coup, il y a 2-3 histoires qui remontent à la surface, des histoires que l'on gardait discrètement loin des plateaux télé pour pas gâcher la fête. Et là, on parle de montage financier et d'Elon Musk. Encore lui, Hier, Tesla s'est pris 5% dans les dents, entre autres parce que le fonds souverain norvégien a promis de voter contre le plan de rémunération à 1000 milliards de dollars. Elon prépare déjà son prochain tour de magie financière. Pendant ce temps, un SPV de 20 milliards de dollars pour son projet xAI. L'idée de base est assez simple, il veut acheter des puces Nvidia et se les louer à lui-même. À ce niveau, ce n'est plus de la finance, c'est de l'art comptable. Et c'est là que ça devient croustillant. Les géants de la tech qui dépensent des centaines de milliards par an dans leur data center dédié à l'IA commencent à sentir la charge financière. Selon une récente note de Bank of America, ces dépenses sont en train de bouffer pratiquement tout leur cash flow. Et comme on ne peut pas tout financer en cash éternellement, ils ressortent une vieille ficelle, les SPV, les Special Purpose Vehicles. Un SPV, c'est donc une société créée juste pour un projet ou une dette spécifique, souvent pour sortir le risque du bilan principal d'une entreprise. En clair, une boîte annexe qui permet de cacher la poussière sous le tapis, ou pour pas dire la merde au chat, sans que ça se voit trop dans les comptes. Et pour faire simple, les mêmes structures hors bilan qui avaient servi à planquer les CDOs avant la crise de 2008. Et Musk n'a rien inventé, puisque Meta a levé 30 milliards via un SPV nommé Beignet Investment. Investor. Je vous jure, j'invente rien. Pour un data center en Louisiane, Alphabet a vendu 15 milliards de dettes à 50 ans, Oracle 18 milliards, et tout le monde se refinance à l'infini dans des SPV. Les experts disent que c'est juste pour isoler le risque des projets, bien sûr, mais quand le risque devient un produit qu'on revend pour rassurer tout le monde, on n'est jamais très loin d'une partie de Jenga géant qui se joue sur un tanker en pleine tempête. Sauf qu'au lieu de crédits immobiliers pourris, ce sont des racks de serveurs et des GPU Nvidia. Alors, ça n'est pas à cause de ça que ça baissait hier et que le doute s'immisçait dans les salles de trading, mais disons qu'il est toujours fascinant de voir que dès que le vent tourne, on nous ressort direct les merdes qu'on n'osait pas aborder en pleine euphorie. Bref, hier on a baissé et on espère que c'est juste encore une magnifique occasion de racheter, mais il faut dire que cette fois, tous ceux qui veulent vendre depuis le mois d'avril sont dans les starting blocks et ils donnent de la voix, peut-être plus fort que ce à quoi nous étions habitués ces derniers mois. Ce matin, l'Asie s'est donc pris la vague venue de Wall Street en pleine gueule. Le Nikkei et le Kospi étaient en baisse de près de 4%, emportés par la peur que les valeurs tech soient devenues des pestiférés trop chers et que tout ce qu'on a vu ces derniers mois n'était finalement qu'un rêve. Samsung, Hynix et SoftBank se sont fait déboîter pendant que les traders comptaient les milliards qui s'envolaient. Les stars d'hier sont devenues les victimes d'aujourd'hui et les déclarations à l'emporte-pièce des dieux de Wall Street n'ont pas aidé. L'Asie a paniqué et même les services chinois montre des signes de fatigue. Pour faire simple, la fête de la tech tourne à la gueule de bois globale. Et comme si ça ne suffisait pas, le Bitcoin a décidé de s'inviter à la fête. La CryptoStar a plongé sous les 100 000 dollars pour la première fois depuis le mois de juin, en baisse de plus de 20% depuis ses records du 6 octobre. Les autres cryptos suivent, Ethereum moins 5, Solana moins 8,5, XRP moins 5,5. Et il n'y a pas de raison spéciale pour la baisse, mais on peut trouver des arguments. Un hack sur une plateforme DeFi, la perte de confiance soudaine sur la tech et 2-3 baleines qui allègent les portefeuilles. Et vous avez le bain de sang d'hier. Alors qu'il est, le Bitcoin est de retour au-dessus des 100 000 dollars, à 102 000 pour être précis. Le pétrole est à 60,63. L'or est à 3,976. Le rendement du 10 ans est de 4,07%. Et le Barron publie un article en gros titre qui explique que les gros clients vont se planquer dans les bonds à cause de cette soudaine incertitude. On n'est pas loin du crash annoncé en direct sur CNBC. Et je rappelle pour mémoire que les crashs annoncés, c'est comme le monstre du Loch Ness. On en a beaucoup entendu parler, mais on ne les a jamais vus. Ou alors très tard dans la nuit avec 4 grammes par jambe. Du côté des news du jour, à retenir, mis à part le crash d'un Boeing UPS à Louisville qui met immédiatement Boeing sous le feu des projecteurs et le New York politique qui vient de virer à gauche tout avec Zohran Mamdani qui a été élu maire de la ville. Mamdani devient le maire le plus à gauche depuis des générations. Reste à voir s'il pourra transformer ses promesses ambitieuses, voire utopiques, en réalité dans une ville qui ne laisse aucun répit à ceux qui la dirigent. Mais mis à part ça, le reste des choses qui nous intéressent se trouve du côté des résultats du trimestre et des sanctions qui vont avec. AMD a sorti un trimestre solide comme un roc, bénéfice mieux que prévu, chiffre d'affaires au-dessus du consensus et des ventes de paye par l'IA et le retour en force des PC et autres consoles. Les puces pour data center grimpent de 22%, les processeurs PC et consoles explosent de 73%, nouveau record pour la maison. Lisa Su continue son plan d'éloger Nvidia du trône IA avec un récent accord pour alimenter OpenAI en puissance avec la MI450 l'an prochain. Guidance positive pour le trimestre à venir. Mais malgré ce quasi sans faute, le marché, en pleine crise de nerfs anti-tech, a vendu la nouvelle. L'action était donc en baisse de 3,6% after close. Supermicro a relevé sa guidance, mais le marché n'a vu que le côté obscur de la force. Le fabricant de serveurs prévoit désormais au moins 36 milliards de revenus pour l'exercice, contre 33 auparavant, et anticipe un second trimestre entre 10 et 11 milliards, bien au-dessus des attentes. Problème, les marges fondent. La marge brute est tombée à 9,3% contre 13,1% il y a un an. Signe que la guerre des prix fait rage dans les serveurs IA, désormais plus commoditisés que stratégiques. Résultat, le titre a plongé de 9% after close. Les investisseurs craignent que la croissance se fasse désormais au détriment de la rentabilité. Le PDG reste confiant, évoquant un carnet de commandes explosif, dont 13 milliards d'or de Blackwell Ultra. Mais Wall Street, lui, commence à douter de la crédibilité du miracle Supermicro. Et en plus, personne n'a confiance en ce CEO. Et puis, il y avait aussi Pinterest qui a publié des chiffres mitigés. Bénéfice ajusté à 0,38$ par action contre 0,42$ attendu, mais un chiffre d'affaires conforme à 1,05 milliard. Le nombre d'utilisateurs atteint un nouveau record de 600 millions, surtout à l'international, où il génère moins de revenus. Les prévisions pour le quatrième trimestre et l'impact des droits de douane sur les annonceurs américains ont déçu, entraînant une chute du titre de 18%. Pinterest tente de se réinventer comme plateforme de shopping visuel dopée à l'IA. Malgré tout, le titre reste en hausse de 16% depuis le début de l'année et est jugé bon marché avec un potentiel de rebond d'environ 30% selon les analystes. Mais du côté de ceux qui roulent, Uber a sorti des chiffres plutôt pas mal. Chiffre d'affaires au-dessus des attentes, bénéfice record gonflé par un bonus fiscal et 22% de trajets en plus du jamais vu depuis 2023. Mais derrière la fête, les prévisions pour le prochain trimestre refroidissent l'ambiance. La croissance des réservations devrait ralentir, signe que le moteur commence à chauffer. Et résultat, le titre s'est pris une claque de plus de 5% durant la séance. Et puis, chez Ferrari, on a remis un coup de gaz. Bénéfice net au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires en hausse de 7,4% à 1,77 milliard. Et un mix produit toujours plus luxueux. Autrement dit, ils vendent moins mais mieux. Après une grosse sortie de route boursière en octobre, Maranello rassure en confirmant ses ambitions pour 2025 avec un objectif relevé à plus de 7,1 milliards. Le patron parle de croissance durable, les investisseurs, eux, respirent un peu mieux. Ferrari reste fidèle à sa recette, rareté, prestige et un moteur qui ronronne, même quand les marchés toussent, mais pas un moteur électrique. Et puis ce matin, Novo Nordisk, le fabricant d'Ozempic, a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour ses traitements contre le diabète et l'obésité, plombés par la concurrence et la pression sur les prix. Le bénéfice net du trimestre ressort à 20 milliards de couronnes danoises, en ligne avec les attentes, mais le marché n'a pas aimé le ton plutôt prudent. L'engouement pour Wegovy et Ozempic reste fort, mais la guerre des prix s'intensifie, tout comme la bataille avec Pfizer pour acheter la biotech américaine Metsera. Et résultat, le titre a perdu plus de 50% déjà cette année. Le roi danois du poids plume commence à sentir la pesanteur. Et d'ailleurs, côté publication du jour, nous aurons encore McDo, Robinhood, Qualcomm, Arm et Snap pour mettre de l'ambiance. Côté chiffres économiques, le shutdown est toujours en place, mais il y aura des ISM et des PMIs et également les chiffres de l'emploi ADP. Pour le moment, les futurs sont légèrement en baisse et tentent de refaire surface. Quoi qu'il en soit, ce matin, l'ambiance a changé. Ça ne va peut-être pas durer parce qu'on veut quand même croire à notre bull market forever. Mais les doutes sont devenus insidieux et les prédicateurs de mauvaise augure sont un peu plus nombreux et peut-être un peu trop célèbres. Excellente journée à tous et on se revoit demain à la même heure et au même endroit.